Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Longueuil-Sainte-Marie avec Bruno Bell. Bruno Bell que je connais depuis pas mal de temps et que j'ai interviewé notamment sur la permaculture. Bon, voilà, des choses différentes. Mais aujourd'hui, je suis là pour une pratique particulière qui, je ne sais pas si on peut appeler ça une pratique, tu nous diras, la géobiologie. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est ?
Déjà, bonjour. La géobiologie, ça peut être identifié comme une science, mais ce n'est pas classifié dans les sciences. C'est l'étude de l'impact d'un lieu sur le vivant, sur les êtres vivants, végétal.
L'impact d'un lieu, donc n'importe quel lieu ?
N'importe quel lieu.
Sur n'importe quel élément vivant, c'est ça ?
Tout à fait.
Et comment tu t'es formé ?
Donc je me suis formé dans un organisme qui forme à ça, qui s'appelle l'École française de géobiologie. Mais il y a plein d'autres organismes qui sont aussi intéressants. Moi, je cherchais une formation plutôt scientifique au départ.
Parce que tu es scientifique ?
Alors je suis de formation scientifique. Et la géobiologie m'a amené sur des limites de la science. Donc ça, c'est assez intéressant.
De quelle manière les limites de la science ?
On se rend compte que la géobiologie, en fait, va travailler beaucoup sur le lieu et ce qu'on appelle les ondes, les vibrations du lieu. Alors les vibrations du lieu, c'est assez vague. Il y en a qui parlent d'énergie, mais soyons concrets. Il y a différents phénomènes qui se passent venant de la Terre de façon naturelle, ou des phénomènes qui arrivent de façon artificielle. C'est tout ce qui est champ électromagnétique qu'on connaît bien, la Wi-Fi, le portable, les antennes relais, etc. Au niveau naturel, il y a des phénomènes qui sortent de la Terre. Par exemple, un cours d'eau va avoir un impact sur le vivant. On voit des arbres qui se penchent, par exemple, pour éviter le cours d'eau. Il y a des arbres qui vrillent, par exemple, sur certains phénomènes qui ont une rotation. Il y a des réseaux aussi, les réseaux géobiologiques comme le réseau Curie, le réseau Hartmann, le réseau Grand Diagonal. Tous ces réseaux, en fait, ont un impact par rapport à notre santé, en fait, à notre bien-être, si on reste longtemps dessus.
Qu'est-ce que c'est que ces réseaux, en fait ?
Ces réseaux, ça peut être défini comme des champs électriques ou des champs magnétiques venant de la Terre, mais on a déjà un champ magnétique au niveau de la Terre, on l'a bien identifié, et il y a des composantes qui en fait sont des sortes de lignes, c'est un quadrillage qui se fait sur la Terre. L'écartement des réseaux est différent, par exemple Hartmann, c'est un réseau qui a une maille, un écartement de à peu près 2,50 m en fonction des endroits où on va l'étudier. Si on dit le réseau Curie, le réseau Curie c'est entre 4 mètres et 8 mètres. C'est un réseau qui est très très déformé, le réseau Curie, parce qu'en fait, il va être attiré par les masses métalliques. Donc dans une maison, si on le trace, ça ne sera jamais des lignes droites, ça sera toujours biscornu. Ça ira sur le ballon d'eau chaude, la cheminée, les radiateurs en fonte.
Et avec quoi tu travailles en fait en géobiologie ? Est-ce que tu as des outils particuliers ? Enfin, j'imagine que tu as une méthode déjà ?
Alors effectivement, lors de ma formation, j'ai appris moi à utiliser des outils. Donc l'outil principal qu'on utilise, c'est un outil radiesthésique, c'est une sorte de baguette, un petit peu plus moderne que la baguette du sourcier, qui est l'antenne de l'échelle. Donc on va pouvoir régler des fréquences, des valeurs. Je l'ai ici là. On va pouvoir régler des fréquences et on va pouvoir donc découvrir en fait des phénomènes qui sont invisibles. Donc ça se fait par radiesthésie et la géobiologie scientifique essaye de prouver en fait ces phénomènes qui sont détectés par radiesthésie avec d'autres appareils qui sont peut-être plus conventionnels ou plus acceptés par la communauté scientifique. Et puis après, avec toute la pollution électromagnétique, par exemple le Wi-Fi, les ondes de l'électricité domestique ou d'une ligne à haute tension, on arrive avec des appareils directement à mesurer des valeurs. Et là, on sait plus précisément ce qu'on mesure dans l'espace et puis en valeur. Ouais.
Comment tu t'es penché sur la géobiologie au départ, hein, par curiosité tout simplement ?
Tu as parlé de permaculture et c'est vrai que c'est un cheminement que j'ai eu en permaculture où il y a une sorte d'attirance sur ma formation scientifique au départ qui est limitante, que je vois dans le domaine de la permaculture qui est limitante finalement. On n'arrive pas de façon rationnelle à définir le vivant ou à gérer le vivant comme on pourrait le faire dans un design en permaculture. Donc, faut aller explorer au-delà. Et au-delà, ben, pour moi, c'était un peu ce qu'on appelle ce monde invisible. Mais en fait, c'est pas si invisible que ça quand on le connaît, quoi. Il y a des phénomènes qui sont pas visibles, effectivement, mais qui sont compréhensibles.
Qu'est-ce que c'est ta pratique en géobiologie aujourd'hui, hein ?
Alors ma pratique, moi je suis géobiologue, c'est une profession. Je fais des expertises de l'habitat, ça veut dire que je vais chez les gens qui me le demandent et je commence par faire un plan de leur maison. Et après je fais toutes les détections qu'il y a sur la maison, donc des zones qui sont plutôt favorables et des zones qui sont défavorables. Et en fonction de ça, on va réaménager la maison. Je vais préconiser des réaménagements dans la maison par rapport à des lieux de séjour où les gens séjournent beaucoup. Alors le premier lieu auquel on pense, c'est le lit, forcément, puisqu'on passe pas mal de temps à dormir. Le deuxième lieu, c'est un bureau, par exemple, si on télétravaille, surtout en ce moment, où on le place pour qu'on soit bien, pour qu'on soit pas fatigué, pour qu'on soit pas carrément malade. Il y a certains géobiologues qui disent que dormir sur un cours d'eau, ça donne le cancer.
Ah donc, oui, ouais, ça va loin donc.
Effectivement, ça va loin. La géobiologie, ça peut être un complément, je dirais, d'une médecine alternative. C'est une autre façon de voir, en fait, ce qu'est notre corps, comment on évolue dans l'espace, etc.
Et donc, quand on fait appel à toi, bah, par exemple, ça peut être quelqu'un qui dort pas bien ou qui ne travaille pas bien chez lui, en fait. Hein, ça peut être quoi comme type de raison ?
Des enfants hyperactifs, par exemple. Ben, on parle beaucoup des enfants, hein, parce que les parents, ils s'occupent pas trop d'eux, mais des enfants qui sont pas bien concentrés, qui sont toujours agités, des maladies. Des gens qui sont malades et qui connaissent un peu la géobiologie, des gens qui ont eu le cancer et qui rechutent alors qu'ils ont eu un traitement tout à fait adapté, ils rechutent. Bon, ben pourquoi ils rechutent ? Il n'y a pas de raison apparente, à part que si on est sur une faille d'un cours d'eau, ben on se retrouve dans une zone qui n'est pas favorable pour que le cancer guérisse complètement, quoi.
Donc tu vas aller chercher les cours d'eau, en fait, dans les habitats ou, est-ce que c'est en extérieur également ? Enfin, j'imagine que c'est des recherches qui peuvent être en intérieur ou en extérieur.
Sur l'habitat, bah, c'est un peu ma spécialité, l'habitat.
Donc plutôt l'intérieur.
Alors l'intérieur, mais aussi le terrain à bâtir. Mm-hmm. Ça veut dire qu'avant de construire une maison, j'ai été sollicité par des gens, par exemple, qui voulaient acheter deux terrains différents. Ils m'ont sollicité pour savoir quel était le meilleur, où on pouvait placer plus facilement la maison. Après, y a toujours des contraintes d'urbanisme. Donc c'est pas forcément évident, mais on peut inverser les plans. Par exemple, on avait prévu les chambres devant, ben, parce qu'il y a un cours d'eau, ben, on va mettre les chambres derrière.
Pour mieux dormir.
Et finalement, on va mettre un couloir où il y aura le cours d'eau dans la maison, et puis ben, ça gêne pas plus, quoi.
Comment on peut te contacter si il y a des auditeurs qui sont intéressés pour contacter un géobiologue, s'ils ont des problèmes X ou Y liés à leur habitat ?
Bon, on peut me contacter par téléphone, le 03 44 41 99 45.
Donc Bruno Bell. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à cette pratique ? Quels sont tes projets ? Est-ce qu'il y a des chantiers qui t'intéressent plus que d'autres ?
Moi, j'ai toujours cette envie de transmettre, de partager en fait mes découvertes. Et donc, effectivement, j'ai envie d'un peu partager ces choses. C'est ce que j'essaie de faire avec une conférence sur la géobiologie et les arbres. Parce que les arbres nous révèlent avec leur forme, nous font comprendre un petit peu ce monde invisible pour les gens qui n'arrivent pas à détecter ces différents phénomènes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis aussi, ben, voilà, ce qu'on va faire avec Bolder, aller se promener en forêt, aller voir des arbres, aller un peu expérimenter ce que fait ces différents phénomènes sur notre propre corps. Découvrir aussi les lieux sacrés, que ce soit des menhirs, que ce soit des temples romains, que ce soit des églises aujourd'hui, sont construits sur des phénomènes géobiologiques. Entre autres, les Templiers étaient très experts dans le domaine. On a vraiment des beaux exemples de cartographie de phénomènes géobiologiques sur les cathédrales. Ça, c'est extraordinaire.
Mais donc, tu te balades un petit peu partout pour aller à la rencontre de ces lieux ?
Ah oui, oui, moi je vais...
Comment tu peux savoir que tel lieu ou tel lieu peut t'intéresser ?
Je cherche les lieux qui ont des menhirs, par exemple. Les lieux qui sont sacralisés dans la campagne, par exemple des calvaires, des vierges. Ben, ces endroits-là, c'est des endroits qui ont été désacralisés ou qui ont été sacralisés en fonction de la religion, mais qui ont été au moins christianisés. Et on voit bien que si on a une vierge d'un côté, ben, on a un phénomène qui s'apparente à la construction d'un lieu où il y avait des menhirs. Donc il y a tout un parcours énergétique qui se faisait. J'essaye de comprendre, moi je suis en train de lire un bouquin sur les Gaulois, j'essaye de comprendre quelles étaient les pratiques, entre autres des Celtes, sur ces lieux-là. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, c'est très très compliqué à comprendre comment fonctionnait ce lieu. Parce que voilà, je vois des phénomènes, j'essaie de relier ces phénomènes, mais l'histoire, l'archéologie peut aussi apporter une version qui est assez intéressante.
Par rapport aux arbres, je voudrais savoir ce que tu vois ou ce que tu ressens. Parce que là, tu parlais donc d'une conférence sur la géobiologie et les arbres. Qu'est-ce que tu y racontes sommairement, hein, évidemment, tu ne vas pas nous faire ta conférence maintenant, mais est-ce que tu as envie de nous parler de quelques axes que tu abordes ?
C'est très pratique, en fait. L'intervention commence par des photos que j'ai prises dans la campagne, aux alentours, hein, de tous les arbres un peu biscornus, un peu bizarres. Donc, il faut que j'aille dans des bois qui ne sont pas trop exploités. Hein. On a ce problème-là en ce moment.
Ah bah, forcément, oui.
Et puis, voilà, des arbres qui sont assez vieux, qui ont été tordus, qui ont une forme très spécifique. Et puis après, ben, j'étudie le phénomène. Je peux donner des exemples assez concrets. Un arbre qui penche, ben, ça peut être un cours d'eau. J'ai une photo d'un verger qui a été pris à Boulogne-la-Grasse il y a 2 semaines, où on voit bien des arbres qui sont très droits, et puis 2 arbres qui penchent complètement. Et pourquoi ces 2 arbres penchent ? Donc voilà, après, je vais voir le phénomène. Des arbres qui vrillent, qui montent en vrille, en spirale comme ça, c'est assez impressionnant, assez magnifique. Des arbres qui ont des sortes de nodules sur le tronc assez importants. On pourrait dire que c'est des blessures ou des animaux qu'ils ont attaqués, etc. Dans certains cas, c'est ça. Et puis dans d'autres cas, y a effectivement, par exemple, le grand diagonal, qui est un réseau, un petit peu comme le réseau Hartmann et le réseau Curie. Au croisement de ce grand diagonal, il y a un phénomène de prolifération de cellules qu'on a pu noter sur les arbres. Mais on le voit aussi sur des humains. Par exemple, on a l'exostose, qui est un développement anarchique des os, qui font des os assez importants, entre autres chez les enfants, sur des croisements comme ça. Ouais.
Ok, bah écoute, c'est passionnant. Si on a envie d'aller écouter une de tes conférences, on fait comment ? Ça, c'est une vraie question. Hein.
C'est une vraie question en ce moment.
Évidemment, les conférences en ce moment, c'est peut-être un petit peu difficile, mais sinon, si jamais tu as des dates...
Alors, j'essaye d'en faire en comité réduit, forcément. Et puis, contactez-moi par téléphone déjà, comme ça, vous me laissez votre adresse mail et puis je vous envoie les informations. Ouais.
Ok, bon, on peut redonner ton numéro, donc.
Donc, le 03 44 41 99 45.
Merci, Bruno.
Avec plaisir.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Bruno Bell à Longueuil, Sainte-Marie. Il nous a raconté sa pratique de géobiologie en tant que géobiologue. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.